Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Isolée sur la scène européenne, la Hongrie orchestre à domicile une désinformation pro-russe. La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, toute l'industrie sidérurgique est impactée dès aujourd'hui. Et puis notre chronique musique entre l'Angleterre et le Mali. Voilà le programme dans Accent d'Europe aujourd'hui. Dans le sursaut européen en matière de défense et la solidarité européenne vis-à-vis de l'Ukraine, il y a une exception de taille, c'est la Hongrie. Le régime de Viktor Orban ne cache pas sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine. Et pour s'assurer du soutien domestique, il mène une campagne de communication très sophistiquée et pro-russe, où se mêlent fausses révélations et silences très choisis. Dans cette guerre de l'information, les médias indépendants qui veulent rétablir les faits n'ont que peu de pouvoir. Reportage à Budapest, signé Florence Labruyère.
Depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie, de mystérieux navires sabotent régulièrement des câbles sous-marins en mer Baltique, des câbles essentiels pour la communication entre Finlande, Suède, Estonie et Allemagne. Moscou est soupçonné d'être à la manœuvre et de mener une guerre hybride contre les Occidentaux. Les dirigeants européens condamnent ces actes, mais la Hongrie reste muette. Selon le géopolitologue Csaba Kanz, le gouvernement de Viktor Orban est dans l'orbite de Moscou.
Non seulement le gouvernement hongrois ne veut pas réagir à cette déstabilisation, cette guerre hybride menée par la Russie, mais d'une certaine façon, il la soutient. Par exemple, la télévision publique hongroise, enfin soi-disant publique, est devenue complètement pro-russe et pro-chinoise. Selon des sources fiables, le numéro 2 de l'ambassade russe en Hongrie rencontre régulièrement la direction du consortium des médias pro-gouvernementaux et ils discutent des thèmes que ces médias doivent mettre en avant.
Car l'empire médiatique du clan de Viktor Orban, télévision publique mais aussi de nombreux médias privés, est très centralisé, avec aux manettes une seule direction de l'information qui indique aux rédactions ce qu'il faut publier. Sur la guerre en Ukraine, ces médias laissent entendre que la Russie n'est pas vraiment l'agresseur et n'a fait que répondre aux provocations de Kiev. Ce narratif est rentré dans la tête des électeurs de Viktor Orban, comme Ilona, secrétaire à la retraite.
Les Russes ont été obligés de riposter parce que les Russes ont été tués. Vous savez, la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique d'antan. Poutine, il ne supporte pas ces idiots qui sont pour la globalisation, pour l'idéologie de genre et toutes ces bêtises. Et il a raison.
Et quand le gouvernement fait placarder dans les rues des affiches anti-Bruxelles, Ilona reçoit le message 5 sur 5.
Moi je dis, vive Orban, vive la Hongrie et vive les gens normaux. Ursula von der Leyen n'a qu'à dégager. Elle est corrompue comme ses centaines de fonctionnaires autour d'elle. Ils sont tous payés et manipulés par le réseau de George Soros.
C'est dans un bel immeuble du centre-ville de Budapest qu'est installée la rédaction de LACMUS. Ce journal web est l'un des acteurs du programme lancé par l'Union européenne pour lutter contre la désinformation. Financé par Bruxelles, les 8 journalistes de LACMUS décortiquent les fausses nouvelles. Exemple avec ce message du gouvernement Orban qui dit que la Commission européenne veut priver les retraités hongrois de leur 13e mois de pension. Blanka Zöldi est rédactrice en chef de LACMUS.
En réalité, Bruxelles n'a absolument pas l'intention de demander la suppression du 13e mois de pension. L'Union européenne elle-même a dit que ce n'était pas vrai.
Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit Viktor Orban à son bureau qui montre à la caméra une feuille de papier, un document censé prouver que la Commission européenne veut dépouiller les retraités hongrois.
Quand on zoome sur ce document, on voit que le document est daté de 2017 et qu'il ne parle pas des retraites. D'ailleurs, en 2017, le 13e mois de pension n'avait même pas été mis en place. Il suffit de gratter un peu la surface de ces vidéos de propagande pour voir la réalité. C'est ce qu'on essaie de montrer à nos lecteurs.
Dans cette guerre de l'information, la communication du gouvernement Orban est de plus en plus sophistiquée. Des influenceurs financés par le gouvernement diffusent des vidéos bâties sur ce que Blanka Zöldi appelle un narratif hostile.
Le narratif hostile, c'est plus que de la désinformation. Vous transformez vos opposants politiques en ennemis. Vous prenez des éléments de désinformation et autour de ça, vous écrivez une histoire avec des effets dramatiques, images et sons et des statistiques trompeuses. Et cela fait un message très puissant qui est répété en boucle.
Dans une vidéo, Daniel Bohar, un influenceur pro-Orban, affirme que l'opposition hongroise veut envoyer les Hongrois se battre en Ukraine. On y voit un extrait d'un discours de Ferenc Gyurcsány, le chef d'un des partis d'opposition, qui déclare « Quand on est en guerre, il faut des munitions ».
Cette citation a été détournée de son contexte. En réalité, Gyurcsány parlait du combat politique de l'opposition contre Orban. Il ne parlait pas du tout de la guerre en Ukraine.
Grâce notamment à ce narratif hostile diffusé sur de nombreuses plateformes, le parti de Viktor Orban a gagné les élections en 2022. Face à l'énorme machine de propagande gouvernementale, le petit portail Lakmus est comme la mouche du coche. Il ne peut pas arrêter la machine, mais le nombre de ses lecteurs, 300 000 chaque mois, est en augmentation. Et ces enquêtes sont souvent citées dans d'autres médias.
La guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis est déclarée. C'est aujourd'hui que rentrent en vigueur les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium au niveau mondial. L'Europe, troisième exportateur, répliquera dès le 1er avril les jeans, les motos Harley-Davidson ou encore le bourbon américain. Pour ne donner que quelques exemples, seront eux aussi surtaxés. Pour l'industrie sidérurgique européenne, il va falloir s'adapter. C'est le cas de l'Espagne, troisième producteur européen. Dans le nord du pays, des Asturies au Pays Basque, la sidérurgie représente 10% de l'économie locale. Les taxes américaines auront des répercussions indirectes. C'est le reportage de Diane Cambon.
Deux hauts fourneaux crachent jour et nuit leurs flammes et fumées au milieu d'un enchevêtrement de tuyaux et d'usines, digne d'un décor futuriste à la Mad Max. C'est la cité d'ArcelorMittal, le géant mondial de la sidérurgie, situé à quelques kilomètres de la ville de Gijón, dans les Asturies. Son activité contribue à 12% du PIB local et permet d'employer directement 5000 personnes et 2000 sous-traitants. Parmi eux, Oxyplane, une entreprise de 160 salariés spécialisée dans la transformation du fer et de l'acier. Dans les hangars, trois machines à couper, tailler et limer le fer et l'aluminium fonctionnent à plein régime. Les clients européens ne manquent pas pour l'instant, comme l'assure Jorge Torres, responsable du département marketing.
Nous sommes nous autres actuellement dans un processus de croissance. Notre grande force est de disposer d'une gamme de machines très ample qui nous permet de nous diversifier sur le marché et d'offrir aux clients une sécurité car nous disposons de stocks, même s'il est vrai que le marché peut varier et qu'il existe une certaine incertitude générale.
Les fluctuations internationales, Bruno Lopez les suit à la loupe. Directeur général d'Asturex, une entreprise semi-privée en charge de promouvoir les produits des Asturies à l'étranger, ne cache pas sa préoccupation. Depuis son bureau situé dans le pôle technologique d'Oviedo, il pointe du doigt la menace des frais de douane en provenance des États-Unis.
Tuvimos una experiencia con Trump.
On a déjà eu une expérience de frais de douane avec l'administration de Trump lors de son premier mandat. Quand on regarde les chiffres des exportations, la baisse n'a pas été dramatique, car les Asturies exportent environ 4% de leurs produits vers les États-Unis, du fer, de l'aluminium et de la fonte. Les exportations représentent un volume de 100 000 euros, mais ce qui nous inquiète, c'est autre chose.
Ce sont les répercussions des frais de douane américains sur le marché international de la sidérurgie qui font perdre le sommeil des entrepreneurs locaux. Car les Asturies exportent principalement en Europe. L'Europe, touchée par les hausses de droits de douane américains. Dans le vaste hangar d'Oxyplane, Jorge Torres regarde avec fierté les pièces d'acier finement coupées, dont certaines vont être exportées en Allemagne.
Al mercado siempre afecta.
Tout le marché international va être touché, évidemment. L'Allemagne est la locomotive de l'acier en Europe. C'est un client direct. Mais l'Allemagne est aussi impliquée dans des projets chez nous ou ailleurs avec nos partenaires.
Pour Bruno Lopez d'Asturex, le véritable problème actuel est avant tout la récession économique qui touche l'Allemagne et certains pays d'Europe comme l'Italie. et qui, par ricochet, affecte l'économie espagnole.
Notre principal acheteur, c'est l'Allemagne. Son industrie a énormément souffert ces derniers temps et cela nous impacte très fortement. C'était notre premier client, mais en 2024, il n'était plus que le cinquième. Je n'ai jamais vu un tel recul pour un pays. Les exportations ont diminué de 35% l'an dernier.
Ce nouveau facteur d'inquiétude vient s'ajouter aux difficultés liées à la concurrence de l'acier chinois et aux efforts économiques pour remplir les critères de décarbonisation exigés par l'Europe. À Oxyplane, on assure avoir déjà fait une partie des devoirs. La nouvelle conjoncture politique apporte toutefois quelques espoirs financiers pour la métallurgie locale, comme le souligne Bruno Lopez, le dirigeant d'Asturex.
Il y a une industrie qui ne se voit pas facilement et qui a toujours été là dans les Asturies, qui est celle de l'industrie de la défense. Ici, il existe un hub, un cluster de 40-50 entreprises, dont la majorité sont liées au métal. Et tout ce qui est en train de se préparer en Europe avec la défense va réactiver ce secteur. Ici, on fabrique des blindés et toutes sortes de composants. C'est un secteur qui va avoir du poids dans la production en Asturie.
Le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a assuré que l'Espagne allait passer de 1,3% à 2% de son PIB en matière de défense, ce qui suppose un investissement de 10 milliards d'euros. Dans les Asturies, le secteur du métal se prépare déjà à accueillir de nouveaux projets militaires.
Et en Irlande, berceau de l'attaque européenne, mais aussi des grands groupes pharmaceutiques, grâce à une fiscalité sur les entreprises très avantageuse, on s'inquiète. On retrouve à Dublin notre correspondante Clémence Pénard. L'Irlande risque d'être clairement visée lors des prochains épisodes de cette guerre commerciale.
Oui, car Washington compte d'abord cibler les pays avec lesquels les États-Unis affichent les déficits commerciaux les plus lourds. Et l'Irlande est en ligne de mire. En 2024, la valeur de ses exportations vers les US a explosé avec une augmentation de 34% pour atteindre un total de près de 73 milliards d'euros. De l'autre côté, les importations américaines vers l'Irlande, elles, ont légèrement diminué de 2%. Elles atteignent 22 milliards d'euros. Et sur ces 73 milliards d'euros d'exportation depuis l'Irlande, c'est l'industrie pharmaceutique qui domine largement avec 44 milliards d'euros de produits pharma vendus aux Américains. Le décor est planté, le déséquilibre commercial est bien réel, certes, mais en théorie, les produits pharmaceutiques devraient être exempts de tarifs, rappelle David Eromelli, professeur d'économie à l'Université Trinity de Dublin.
Les produits pharmaceutiques étaient considérés comme sensibles. Au début des années 90, l'Organisation mondiale du commerce a conclu un accord selon lequel les droits de douane sur les produits pharmaceutiques étaient exclus. La nouvelle administration Trump, cependant, ne semble pas en tenir compte.
Pfizer, Johnson & Johnson, Lilly, ces géants américains ont tous choisi l'Irlande pour sa fiscalité avantageuse. Lilly, par exemple, y produit dans une usine près de Cork l'un de ses médicaments phares, Zepbound, contre l'obésité.
Mais taxer ces importations, Clémence, pourrait finalement être un non-sens économique.
Et oui, comme le souligne Emma Howard, économiste à l'Université technologique de Dublin.
Une grande partie des exportations irlandaises vers les États-Unis ne sont pas des produits finis, mais des composants essentiels à la fabrication de médicaments qui seront finalisés sur le sol américain. Ces tarifs douaniers ne feraient donc qu'alourdir le coût des intrants sur le sol américain, ce qui se répercutera inévitablement sur les consommateurs américains.
Mais Donald Trump ne va pas s'arrêter aux seuls produits pharmaceutiques.
Un autre levier de pression sur l'Irlande et sur toute l'Union européenne, c'est l'agroalimentaire. Et les Américains raffolent des produits irlandais, le beurre Kerrygold, le whisky Jameson, la liqueur Baileys, autant de succès qui pourraient se retrouver dans le viseur des tarifs douaniers. Et l'impact serait colossal, selon David Eromelli à nouveau.
Les États-Unis sont devenus depuis 2018 le deuxième importateur de produits agricoles irlandais. Certes, environ 73 000 personnes travaillent dans l'industrie pharmaceutique en Irlande, mais le secteur agricole, lui, emploie plus de 100 000 personnes.
Alors certes, sur le papier, l'Irlande affiche un excédent commercial avec les États-Unis, ce qui en fait une cible idéale. Mais en réalité, cet excédent sur les biens est largement éclipsé par un déficit colossal sur les services. Ainsi, la balance commerciale globale biens et services de l'Irlande avec les États-Unis est déficitaire de plus de 100 milliards d'euros. Un argument clé que le Premier ministre irlandais ne manque jamais de rappeler.
Merci Clémence Pénard à Dublin.
Music.
Et c'est l'heure de notre chronique musique avec vous, Vincent Théval. Bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et vous nous parlez d'un mariage italo-anglo-malien.
Et oui, depuis ses débuts en 2004, le musicien anglo-italien Pierce Faccini a régulièrement porté son regard au-delà de la Méditerranée. On se souvient notamment de sa collaboration en 2021 avec les frères Malik et Karim Ziad, musiciens algériens spécialistes des musiques gnawa. Et aujourd'hui, Pierce Faccini publie un album conçu et enregistré avec le joueur de kora Balaké Sissoko, grand héritier des musiques mandingues au Mali. Le disque s'intitule Our Calling et il est en quelque sorte une nouvelle étape dans un dialogue que les deux musiciens ont entamé voilà 20 ans et régulièrement renoué depuis, au fil de collaborations ponctuelles. Cette fois, ce sont 10 chansons qui célèbrent le mariage de deux traditions folk avec une grande délicatesse.
Of a Dream sur Accent d'Europe, réalisé par Théo Raison. Retrouvez-nous sur notre site et l'application Pure Radio. À demain. When your world isn't all that it seems.